matin. Moi, j'étais là en train de louer Dieu avec vous. Et j'aime ces moments. En fait, je me réjouissais de pouvoir vous apporter un court message. En tout cas, je vais essayer d'être le plus court possible ce matin. Mais je suis dans la joie que vous soyez réunis d'un même cœur. Plusieurs églises réunies. Je crois vraiment que Dieu est là quand on est réunis en son nom. Et vous savez, moi, j'avais ce passage, évidemment, qu'on connaît tous, de là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez, ce passage, on l'utilise beaucoup, mais on en oublie aussi beaucoup dans quel contexte il est donné également. Parce qu'il ne suffit pas juste de trois chrétiens réunis pour que Jésus soit là. Jésus, il est là même quand on est tout seul. On est d'accord que ce n'est pas une addition de chrétiens qui fait que Jésus, tout d'un coup, il est là, que Dieu est là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas 1, 2, 3, Jésus, 1, 2, 3, Jésus. Ce n'est pas, c'est pas ça qui se passe, on est d'accord. Hein. Non, en fait, le contexte nous parle d'un climat de conflit. C'est ça qu'on nous parle au début. C'est si quelqu'un a péché contre toi, va voir ton frère. Puis on nous parle de... La Bible nous donne des enseignements de comment régler les différends dans l'Église. Et quand on est capable de traverser nos différends et qu'on va rejoindre l'autre avec ce cœur de vouloir être uni malgré nos différences avec lui, alors Dieu siège au milieu de nous. C'est quand même un peu différent. C'est avec une intention d'amour, d'unité, de restauration de grâce. Et puis parfois, il faut savoir régler les choses. Mais si on est dans cette volonté de ne pas se séparer malgré nos différences, malgré aussi parfois les enjeux spirituels qu'il y a ou les déceptions, alors Dieu promet qu'il sera avec nous. Et je crois que s'il y a une église ce matin qui est unie dans le même cœur de vouloir se rapprocher dans nos différences, se rapprocher les uns des autres, comme ça a été très justement dit dans la petite histoire, je crois vraiment que Dieu va nous manifester sa présence ce matin, c'est sûr. Mais il faut qu'on soit pas juste réunis, mais unis d'un seul cœur. Parce que vous savez que l'enjeu principal de nos églises, c'est de rester unis. L'ennemi veut toujours nous diviser. Moi, je l'ai connu dans ma propre famille. Je vais vous expliquer comment Dieu est rentré dans ma famille. En fait, à l'époque, moi, j'avais 7 ans et je vivais un monde parfait où mes parents s'aimaient, selon moi. Je suis le petit dernier. Je suis le dernier, donc je suis le préféré. Hein. Vous le savez tous, les petits derniers. Ah, on le sait, les autres ne le savent pas, mais on le sait qu'on est les préférés. Non, mais en tout cas, j'étais très aimé de mes parents. Et moi, mon monde, il est parfait, mais je ne sais pas que dans les coulisses, mes parents sont sur le point de divorcer. Parce que il y avait des tensions dans le couple qui prenaient place. Et ma mère dit aujourd'hui, parce qu'elle est chrétienne, elle dit, le diable avait réussi à obscurcir mon regard sur ton père et je ne voyais plus que ses défauts. Et on sait très bien que le diable fait ça très bien, de nous montrer les défauts les uns des autres. Et vous savez pourquoi il fait ça très bien et que c'est facile pour lui, c'est qu'on en a beaucoup des défauts les uns les autres. Donc c'est pas difficile pour lui de les montrer les uns les autres. Et il va toujours te dire, regarde l'autre ce qu'il t'a fait, regarde comment il est, regarde comment ils font des choses qui ne sont pas correctes. Et il va toujours te montrer les défauts parce qu'il veut nous séparer, alors que Dieu veut nous unir. Et donc là, mes parents sont sur le point de... Alors que ma mère voulait pas divorcer, parce qu'elle voulait pas séparer la famille, mais comme ce monde le proclame et que les couples dans ce monde qui sont seuls sans Dieu le proclament, malheureusement, elle ne voyait pas d'issue. Elle dit, je n'aimais plus ton père, je ne voyais plus que les défauts. Donc c'est comme la seule issue. Sauf que ma tante qui est au Japon, alors c'est un peu improbable cette histoire, elle vit au Japon et dans une base américaine, elle est invitée dans une base américaine, c'est des bases américaines issues de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et là-bas, elle va dans une réunion et elle rencontre le Seigneur. Elle est touchée par le message de l'Évangile, elle accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et elle entend, elle était très proche de ma mère et elle entend que mes parents vont divorcer. Et elle dit à ma mère, non, tu ne divorces pas tout de suite, je reviens cet été. Elle revenait une fois par an, elle dit, je reviens cet été, je te demande juste de venir avec moi à un camp à Chambon-sur-Lignon, et je te demande de venir avec moi à ce camp-là, et si à la fin de ce camp-là, rien ne se passe, tu divorceras de ton mari. Et ma mère a dit, ok, bon, bah, perdu pour perdu, de toute façon, je vais prendre le temps, je vais prendre les enfants, et moi, je ne sais pas pourquoi, maman part avec nous, enfin, maman, où elle nous emmène en camp, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas papa, enfin, mais pour moi, je comprends pas l'enjeu qu'il y a sur ce camp-là. Et on va à ce camp-là. Et je me rappellerai toujours, il y avait un petit chapiteau dans lequel on se réunissait tous les soirs. Et l'atmosphère était tellement belle. Il y avait... Moi, je ne connaissais pas toutes ces choses de Dieu, là, les langages, les chansons, tous les j'aime. Tous les... Mais par contre, je sentais là un amour qui était sous ce chapiteau. Et le pasteur, dans la semaine, fait un appel au salut. Et ma mère donne sa vie à Jésus. Moi, je me lève à côté d'elle, je lui donne la main. Je dis, moi aussi, je ne comprends pas tout, mais je donne ma vie à ce Dieu-là. Et tout a commencé pour moi, mais tout a commencé pour mes parents également, recommencer. Ma mère a dit, instantanément, les écailles sont tombées de mes yeux. Et je retrouvais un amour pour ton père comme je n'avais jamais vécu. Et la bonne nouvelle, c'est en ça que je dis que si on est unis en son nom, Dieu va nous retrouver de l'amour là où on n'en a plus parfois, les uns pour les autres, et de la compassion là où on n'en a plus aussi parfois pour les uns pour les autres, ou de la patience aussi, parce qu'il y en a certains, ils nous fatiguent. Mais Dieu nous donne ce qu'on n'est pas capable de produire par nous-mêmes.
Il n'y a plus de pile, je crois. Si c'est rouge, je sais pas. Je vais devoir me laisser canaliser ici, peut-être. Non ah, mon sauveur.
De nombreuses personnes dans cette salle. Je crois que vraiment, certains, vous allez retrouver une proximité avec Dieu à la fin de ce message. Je vous annonce la fin de ce message, en fait, et la fin de cette réunion. Je suis prophète, en fait. J'ai d'autres fins d'histoires à vous raconter. Je peux vous annoncer que Jésus revient également. Alors, je n'ai pas peiné à le trouver, c'est dans la Bible, ça. Mais je vous l'annonce quand même, et c'est bon de se rappeler cette espérance-là. Mais je crois vraiment qu'à la fin de ce message, de certaines personnes, vous allez vous rapprocher de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Je t'ai vu ». Je t'ai vu. Ça vous fait penser à quel personnage biblique je t'ai vu? Je vais vous faire gagner le livre, là. Le livre Chrétien et Amour, je vous le présenterai juste rapidement après, mais... Il y en a plusieurs, mais j'ai entendu la bonne réponse. C'est toi qui as dit Nathanaël? Comment c'est ton prénom? Nathalie, c'est très près de Nathanaël, c'est pour ça, je pense. Alors, Chrétien amoureux, c'est un livre qui parle de notre histoire avec Pauline. Alors, je ne vais pas refaire. Hier soir, on a eu un spectacle. Je faisais le spectacle que j'ai créé, qui s'appelle Chrétien amoureux, qui est issu du livre, qui est simplement mon témoignage sous forme de spectacle avec humour, mais aussi c'est avec l'humour faire réfléchir aussi les gens et les amener à la foi chrétienne. En tout cas, les amener à la compréhension que et si il y avait un Dieu au-dessus de toi et que cette vie n'était pas arrivée par hasard. Bref, j'amène les gens à une réflexion, en tout cas. Et le spectacle est issu de ce livre dans lequel je parle de mon histoire, je parle des relations amoureuses. C'est un livre qui parle beaucoup des fréquentations, de comment on fait un bon choix amoureux. Mais ça parle, et c'est pour ça, Nathalie, je ne sais pas si tu es en couple et je ne veux pas me permettre de rentrer dans ton histoire. Mais en tout cas, je t'invite à le lire quand même parce qu'il y a toute la réflexion. Le monde comme... Non, j'ai pas vu. Ah, il y a une bague. Ok, il y a une bague. Messieurs, arrêtez de regarder Nathalie, c'est fini. Mais je t'invite quand même à le lire parce qu'il y a toute la réflexion autour des prises de décision dans la vie. Je crois que le choix amoureux est un choix. Et des fois, on ne sait même pas sur quoi on base nos choix. Et il y a vraiment, dans ce livre, je vous invite à le lire, mais à vous le procurer, parce qu'au-delà de mon témoignage, j'ai aussi toute cette notion de réflexion autour de mais sur quoi on base nos choix. On veut tous faire des bons choix, je crois, et des choix inspirés de Dieu, on l'espère. Mais des fois, on ne sait même pas sur quoi on base nos choix et comment on va capter la volonté de Dieu. Donc ça parle vraiment de ça. Et oui, pour faire des choix amoureux, mais des choix aussi d'orientation professionnelle, tous les choix qu'on fait dans la vie. Et je le dis souvent, en fait, un chrétien, il est rendu capable de faire de bons choix pour sa vie, je le crois. Il n'est pas juste guidé par les événements que Dieu décide. Non. Il est rendu aussi transformé à l'image de Christ et rendu capable de faire de bons choix pour sa vie. Et je crois que de bonnes décisions t'amènent à la bonne destination. C'est ça aussi un chrétien mature. Donc vraiment, je vous invite, à la fin de cette réunion, je serai au fond de la salle, en tout cas pour pouvoir vous le présenter et que vous puissiez vous le procurer. Mais évidemment, je ne suis pas là pour vous vendre un livre, vous vous en doutez. Mais par contre, j'aime vraiment cette notion d'amener à la réflexion sur la maturité chrétienne. Et puis, pour des choses très très pratiques, vous allez voir que c'est un livre vraiment rempli de choses pratiques. C'est comme je dis souvent, mais même pas quand je dis ça, je dis que c'est mon troisième enfant. Ma femme m'a dit non, tu peux pas comparer un livre à un enfant, c'est pas pareil. Je dis mais si, c'est un livre, c'est quelque chose qui grandit en toi, c'est quelque chose que tu peines à sortir. Elle me dit non, t'as jamais accouché, toi c'est sûr, toi. Donc bon, vous lui direz pas que j'ai dit ça, hein, d'accord. Ce matin, on va dans l'histoire de Nathanaël. Merci Nathalie. Jean chapitre 1 et verset 43, on va lire ensemble cette histoire où évidemment Jésus va dire à Nathanaël qu'il l'a vu. Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et là, Nathanaël, lui, il doute. Il dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et il lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu ? Dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, tout d'un coup, l'histoire change. Nathanaël, les écailles tombent aussi de ses yeux. Nathanaël répondit, mais tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Un je t'ai vu de la part de Jésus qui a tout changé dans cette histoire. Nathanaël était un juif et Nathanaël connaissait les textes qui annonçaient un Messie à venir. Ils savaient, ils l'attendaient tous, ce Messie. Et on voit dans cette histoire que Philippe lui dit, on l'a trouvé. Il est là, le Messie à venir. Il est là, celui que les prophètes annonçaient. Mais quand Nathanaël entend que ce Messie vient de Nazareth, il se met à douter. Il me dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de nous? Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas cette histoire que je m'étais racontée. C'est pas possible. Et il doute jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et qu'il lui dise, je t'ai vu. Et là, les écailles sont tombées des yeux. Et parce que Jésus va lui parler de là où il était, sous le figuier. Et on a beaucoup de commentaires bibliques. En fait, les commentaires bibliques s'intéressent à une chose. Mais qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier? Et puis tout le monde a son interprétation. Moi, j'ai ma théorie. Puis je pense qu'il y en a plein dans cette salle qui auraient une théorie différente, peut-être. Et ce matin, je vais vous le dire. Je ne sais pas ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Vous êtes déçus, hein? Vous croyez que j'allais avoir la révélation que personne n'a jamais eue depuis des milliers d'années? Non, on ne le sait pas, simplement parce que la Bible n'en parle pas. Et pourquoi la Bible n'en parle pas? Parce que ce n'est pas ça le plus important. Nous, on met tous nos efforts à savoir ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important à retenir dans cette histoire, c'est que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Mon premier point pour vous, c'est Dieu voit tout et Dieu sait tout. Ça paraît évident, les amis. Mais parfois, dans nos vies, on vit comme si on pouvait se soustraire au regard de Dieu. Il y a des domaines de nos vies, on les donne à Dieu, puis il y a des domaines où on dit, oh, si je ne lui en parle pas de ça, peut-être qu'il va me laisser tranquille avec ça. On se cache un peu des fois de Dieu. C'est comme moi, je vois, des fois, je joue avec mon fils Sacha à cache-cache. Alors encore plus, quand il était petit, on jouait à cache-cache comme ça. Et moi, je suis un bon père, je fais semblant de ne pas le trouver, alors que bon, c'est un peu évident. Tu vois, je suis là, Sacha, où es-tu? Et là, en fait, Sacha, il est caché derrière un rideau. Bon, après, ce qui est surprenant, c'est que c'est un rideau transparent. Donc, je suis à... Voilà. Je lui ai dit, bah, j'espère qu'il va prendre en maturité quand même. Parce que... Et là, t'es où? C'est ridicule la scène. Mais vous comprenez que vouloir se cacher de Dieu, c'est ridicule de la même manière. Se cacher de Dieu est impossible. Se cacher de Dieu, Dieu voit. Et puis on voit, il y a deux choses que Dieu apprend. En fait, nous, on met les yeux forts sur le fait que Jésus a dit, je t'ai vu sous les figuiers. Mais Jésus a dit aussi autre chose que personne ne pouvait savoir. C'est, oh, voici un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Dieu voit aussi le cœur. Il voit les circonstances, mais il voit aussi le cœur avec lequel on fait les choses. Des fois, aux yeux des hommes, tu peux faire des choses qui paraissent bien. Mais Dieu dit non, avec le cœur avec lequel tu as fait les choses, non, ce n'est pas une bonne action au final. Dieu voit aussi notre cœur. Je me rappellerai toujours, récemment, j'étais dans un magasin et je suivais un couple qui était un petit peu en train de se disputer. Je ne comprenais pas ce qui prenait place. Et à un moment donné, quand on rentre dans le magasin, j'entends la dame qui parle un petit peu plus fort et je comprends en fait ce qui vient de prendre place. On venait de passer, effectivement, rentrer dans le magasin et on était passé devant quelqu'un qui mendiait, tout simplement, à l'entrée. Et puis, j'ai compris qu'en fait, les deux n'étaient pas d'accord s'ils donnaient la pièce ou pas. Et la dame, elle dit à son mari, « Oui, bah, rien que pour t'embêter, moi, à la sortie, je lui donne 2 €. » Et là, je me suis dit, « Bonne action ou pas bonne action ?» Je crois que il y en a qui disent non, il y en a qui disent... Je crois que le mendiant, il s'en moque, lui, de l'intention avec lequel. Mais je crois que Dieu, par contre, voit les cœurs avec lesquels on fait une action. Et on ne peut rien cacher à Dieu. Mais je ne veux pas vous culpabiliser parce que moi, je crois vraiment que le regard de Dieu, le fait que Dieu voit tout, c'est infiniment positif. Et on devrait se réfugier dans ce Dieu qui voit tout. Parce que Dieu qui voit tout, il voit les choses qui échappent aux hommes. Il voit les bonnes actions, même quand il n'y a personne pour applaudir. Même quand t'as pas le happening, oui, t'es un mec super, bravo pour l'action que tu as fait. On a rarement des gens qui nous applaudissent. Mais quand même, des fois, il y a des gens qui nous remercient ou qui vont nous congratuler. Mais Dieu voit les actions qu'il n'y a personne. Ou t'es seul sur ton lieu de travail, et t'aurais pu faire comme tout le monde, t'aurais pu dire du mal de ton patron, t'aurais pu sur ta fiche de paye tricher, t'aurais pu sur ton CV, comme tout le monde le fait, dire que tu parles l'anglais et l'espagnol. Je ne dénonce personne, j'essaie de regarder personne actuellement, pour pas que vous sentiez... Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'il n'y aurait personne pour nous empêcher de le faire. Mais parce qu'on sait que Dieu a vu et qu'on ne le fait pas, Dieu dit, voici mon homme, voici le caractère de mon fils, voilà, avec approbation, je le regarde. Et je crois vraiment que Dieu... C'est comme si spirituellement, tu pouvais entendre les anges applaudir, même s'il n'y a personne pour applaudir. Des fois, on voudrait tellement qu'il y ait tout le monde, des gens pour nous encourager. Je me rappellerai toujours dans ma Solon Natal, j'ai fait une bonne action alors qu'il n'y avait personne pour applaudir. J'étais là et je devais traverser un pont. Il y a une petite mamie, alors moi j'étais tout jeune, une petite mamie qui vient s'approcher de moi, un peu tremblante, elle me dit, « Jeune homme, j'ai peur de traverser le pont, est-ce que tu peux me donner le bras ?» Alors moi je me sentais, ouais, je bombe le torse un peu comme ça, je l'aide à traverser le bras comme ça, à traverser le pont avec mon bras, comme ça je... Et vraiment je vous le dis, quand je traverse le pont, j'ai vraiment l'impression d'être un bon gars, vraiment je suis un mec génial. À ce moment-là, je traverse comme ça. Et dans ma tête, j'ai l'impression que j'entendais presque des gens applaudir en disant « Ce mec est un mec génial !» Vraiment, j'ai presque... Alors qu'en fait, il n'y a personne pour m'applaudir à ce moment-là. J'ai juste la récompense de ma bonne action dans mon cœur. Mais des fois, dans la vie, on aurait envie de recevoir l'acclamation. Mais je crois que l'approbation la plus importante, elle vient du ciel. Hein. La paix qui nous vient du ciel. Vous savez, quand on fait des choses qui sont justes, on reçoit une paix qui est notre récompense. Moi, de plus en plus, je suis guidé par cette paix-là. Des fois, je fais des choses qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas comprises. Mais par contre, je reçois l'approbation du ciel si je sais que c'est aligné avec la volonté de Dieu. C'est ça qu'on doit chercher dans cette vie. L'approbation du ciel. Et c'est infiniment positif, ce Dieu qui nous voit. C'est sûr que ça pourrait nous faire peur, mais je crois que c'est infiniment positif. Mais naturellement, l'homme a peur de ce regard-là. Parce que, on pourrait, vous savez, les commentateurs bibliques, ils se rejoignent au moins sur une chose. Ils disent que le figuier, c'est souvent le lieu de la méditation. Et donc, c'est comme si c'était le lieu où Nathanaël priait, méditait. Et on pourrait avoir peur, nous, de ce moment-là, en se disant, mais... C'est comme si Dieu allait nous dire, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sous le figuier. Ça fait longtemps que, oui, j'ai bien vu que tu n'étais pas souvent sous le figuier dans le lieu de la prière. On pourrait avoir peur de ce regard de Dieu qui voit tout également. Parce qu'à la hauteur de la grandeur qu'il est, de la perfection qu'il est, quand on se regarde, nous, honnêtement, on ne se sent pas parfait, hein, on se sent bien sale. Et des fois, on se sent disqualifié d'aller dans sa présence. Des fois, le réflexe naturel de l'homme, malheureusement, face à ce Dieu qui voit tout, c'est la fuite. Le réflexe naturel de l'homme est d'avoir peur de ce Dieu qui voit tout, c'est mon deuxième point. Le réflexe, on le voit dès la Genèse, chapitre 3 et verset 8, quand ils entendirent, juste après le péché originel, hein, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Il ne lui dit pas, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui dit, « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. » On sait qu'on parle du dénuement physique, mais c'est aussi du dénuement de l'âme. On sait très bien qu'il voit son péché, son propre péché. Il se sent nu face à Dieu, face à son imperfection. Et on sait qu'il a le réflexe naturel, quand on a péché, c'est de vouloir fuir loin de la face de l'Éternel, parce qu'on se sent disqualifié. Vous savez, moi j'ai longtemps cru que Dieu était celui qui allait me tomber dessus pour chacune de mes erreurs. Moi j'ai pas voulu de Dieu, je me suis converti assez tard, à 27 ans, c'est ce que j'expliquais à la jeunesse ce week-end, parce que moi j'avais une vision de Dieu qui était sur son ciel de gloire, en train de regarder tout ce que je fais, et à chaque fois que je faisais une mauvaise action, il allait quelque part me punir ou me tomber dessus. Un petit peu comme un vigile. Vous savez, dans les magasins, vous voyez les vigiles. Moi, j'ai peur du vigile. Je vous le dis, j'ai toujours peur du vigile. Même si j'ai rien fait de mal, j'ai peur du vigile. Je sais pas, des fois, je vais à Action, vous allez à Action, des fois, vous aussi, et puis à Action, il n'y a même pas de sortie sans achat, tellement ils savent que tu vas toujours acheter un truc. C'est genre, oui, hein, cette petite huile pour les lobes d'oreilles. Ah oui, ça doit être génial. Improbable. Et donc, en fait, tu t'achètes, tu sors, ils sont tellement sûrs d'eux qu'il n'y a même pas de sortie sans achat. Et en fait, je suis allé à Action et j'ai rien trouvé pour acheter. Et là, presque, je sors par la fameuse caisse numéro 1 qui est un petit peu plus large comme ça, et presque je m'excuse d'être là. C'est genre, oui, je suis désolé, non, je suis désolé de rien avoir acheté, vraiment, je m'excuse. Tu sais, je suis là comme ça, je monte patte blanche, et là, je croise le regard du vigile. Et là, alors que j'ai rien fait de mal, dans ma tête, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, dans ma tête, je me dis, fais le mec cool. Fais le mec qui n'a rien à se reprocher, alors que j'ai rien à se reprocher, on est d'accord. Et genre, je dis, fais une démarche cool, je fais comme ça. Je suis le mec le plus bizarre du magasin. Le vigile, il se dit, mais lui, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait un truc, c'est sûr. Mais j'ai peur du vigile. J'ai peur, et même si j'ai rien fait de mal, et moi, je croyais que Dieu était dans son ciel de gloire, à me regarder, à regarder toutes mes actions, pour me tomber dessus pour chacune de mes erreurs. J'avais pas compris, et j'ai réalisé plus tard, maintenant que je suis chrétien et que je suis pasteur et que ma vie est en Dieu, j'avais pas compris que Dieu, c'est pas celui qui va me tomber dessus pour mes erreurs, c'est celui qui a payé le prix pour mes erreurs. Et que la distance avec Dieu, c'est pas lui qui l'a créé, c'est moi qui l'a créé, en fait, bien souvent. Et que oui, évidemment, qu'il faut y aller avec une attitude de repentance quand on a mal agi, mais c'est pas Dieu qui s'écarte de nous, c'est nous, bien souvent, qui avons cette tendance à fuir loin de lui. Et vous savez, j'ai accompagné tellement de jeunes, de moins jeunes aussi, qui sont en lutte avec des addictions, avec des difficultés, où on fait la promesse à Dieu dans une réunion de dire « Seigneur mon Dieu, je te l'abandonne, cette chose, loin de moi maintenant, je me repens et puis je reviens à toi » et qui retourne dans le quotidien une semaine après ou même quelques jours après et qui rechute encore et qui sont déçus d'eux-mêmes des promesses qu'ils ont faites envers Dieu et qui se disent « Mais est-ce que je mérite ?» Et puis le diable, vous savez, le diable est très fort dans ce moment-là. Toi, tu vas aller dans la prière ?
avec ce que tu as fait cette semaine? Toi, tu vas aller auprès de Dieu? Toi, tu vas aller à l'église dimanche matin? Alors que tu viens de t'embrouiller avec ta femme ce matin? Pareil, j'essaie de regarder personne parce que ça peut arriver aussi. Je me rappelle un matin, j'avais parlé de ça et puis il y a un couple qui est venu. Oui, tu as parlé de nous ce matin. Non, j'ai parlé de personne ce matin. C'était une illustration. Mais ça nous arrive, ça m'est déjà arrivé, des fois, d'avoir une tension avec ma femme avant de venir à l'église et même avant de prêcher. Et le diable, toujours, qui vient et qui dit « Et toi, tu vas aller à l'église ?» Oui, ta place est à l'église. Parce qu'on ne va pas voir le médecin quand tout va bien, les amis. Qui va voir le médecin quand tout va bien ici? Imagine, tu prends rendez-vous avec le médecin. Tu attends des heures chez le médecin, parce que vous toujours attendre des heures chez le médecin. Il t'accueille. Il te dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Rien. Tout va bien. Ah si, je voulais vous parler de la gastro que j'ai eue il y a 3 semaines. Et tu dis, c'est il y a 3 semaines qu'il fallait venir. Oh non, j'osais pas. Je me sentais contagieux, je me sentais pas bien. Je suis là pour ça, en fait. Mais Dieu, c'est la même chose, les amis. Des fois, on n'ose pas aller dans sa présence alors qu'il est la solution à nos problèmes. Mais vous avez remarqué combien l'ennemi arrive à nous inverser la pensée, de dire, mais fuis loin de l'Éternel. T'es pas digne, t'es trop sale, t'es pas assez. Alors que la solution, elle est à lui et elle est en lui. Je vous dis ceci, et vraiment, s'il y a une pensée que vous devez retenir pour cette matinée, c'est cette pensée-là. Face à la culpabilité, il y a seulement 2 chemins possibles. Soit se cacher de Dieu, soit se cacher en Dieu. Et vous allez voir qu'il n'y a que 2 chemins quand vous allez chuter, quand vous allez faire des erreurs, et je ne suis pas prophète, mais je vous l'ai annoncé, ça va arriver. Et il y aura toujours le diable qui va vouloir vous éloigner de Dieu, alors que Dieu dit, mais ne te cache pas de moi, viens te cacher en moi. Parce qu'en moi, tu es en sécurité. Parce qu'en moi, tu n'as rien à craindre. Parce qu'en moi, tes péchés passés, présents et à venir, ils sont déjà soldés. Tu n'as rien à craindre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est mieux quand c'est la Bible qui le dit qu'un prédicateur, d'ailleurs. Colossiens chapitre 3 et verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Waouh ! Elle est belle, cette pensée. Notre vie est cachée en lui. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tout ce que l'on donne à Dieu, c'est en sécurité. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'ennemi ne peut pas ravir entre les mains de Dieu ce qui est entre les mains de Dieu ? L'ennemi n'a pas accès à ce qu'il y a entre les mains de Dieu. Donc ça veut dire une chose, et cette pensée est incroyable. Si on donne notre vie à Dieu, c'est pour ça que Dieu nous dit, donne-moi ta vie. Pourquoi? Parce que si notre vie est entre les mains de Dieu, l'ennemi ne peut pas avoir accès à ta vie. Ton âme est en sécurité. Et même si tu meurs physiquement, ton âme vivra auprès de l'Éternel pour l'éternité. Donc c'est une pensée qui est merveilleuse. Mais voici le principe où parfois il peut aussi s'arrêter. C'est que des fois, on a donné notre âme à Christ, on a donné notre vie à Christ, et elle est en sécurité. Mais il y a des domaines de nos vies qu'on n'a pas donné à Dieu. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, il y a des choses où on garde le contrôle. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Sur ce domaine-là, l'ennemi y a accès. Parce que ce n'est pas entre les mains de Dieu. Parce qu'on n'a pas remis ce domaine-là. Et elle a toutes les raisons parfois pour reprendre le contrôle. Et oui, ça peut t'apporter de la joie éphémère, oui, ça peut avoir des fois des résultats provisoires, si tu fais par toi-même. Mais vous êtes d'accord avec moi, et je pense qu'on a beaucoup vécu des expériences. Moi, j'ai essayé la vie par moi-même, elle ne m'a pas amené beaucoup de bonheur. En tout cas, du bonheur éphémère, certes, mais elle ne m'a pas amené très très loin. C'est mieux quand c'est entre les mains de Dieu. L'ennemi n'y a pas accès. Et ce matin, je crois que certains, vous allez revenir à Dieu pleinement, vous allez venir vous cacher en lui face à la culpabilité, et vous allez peut-être donner aussi des aspects de vos vies sur lesquels vous avez repris le contrôle. L'ennemi veut nous éloigner de Dieu, Dieu veut nous rapprocher de lui. Pourquoi? Parce que ce qui me permet de dire ça, c'est que je crois que Dieu a les yeux braqués sur nous et pas sur ce que l'on fait. Vous avez remarqué que Jésus a dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Il n'a pas dit, j'ai vu ce que tu as fait sous le figuier. Il a dit, je t'ai vu sous le figuier. Parce que Dieu a les yeux braqués sur nous, alors que nous, on a toujours les yeux braqués sur ce qu'on a fait. Dieu n'aime pas le péché, certes, mais il aime le pécheur. Il a toujours les yeux braqués sur nous, parce qu'il y a toujours une grâce pour nous. C'est pour ça que Dieu a dit à Adam, mais où êtes-vous? Il ne s'est pas promené dans le jardin en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, où êtes-vous? Malgré ce que vous avez fait, je suis encore là. Je veux que vous veniez près de moi. Et il le dit à quelqu'un, j'ai vraiment fort sur le cœur, cette pensée qu'il le dit à quelqu'un, où es-tu? Et toi tu dis, avec ce que j'ai fait, non, j'ai toujours les yeux braqués sur toi, il y a encore une grâce possible pour toi, il n'y a pas de choses trop sombres que tu aies faites ou qu'on t'ait faites qui te séparent de mon amour. Où es-tu? Où es-tu ce matin? Dieu t'invite à venir te réfugier en lui. L'ennemi te dit, cache-toi de Dieu, mais Dieu te dit, cache-toi en moi. Je vais inviter le pianiste à venir me rejoindre et j'approche à la fin de mon message. Et je terminerai avec cette petite pensée. Vous savez, je le raconte dans le livre Chrétien amoureux. J'ai longtemps vécu loin de Dieu. Et pour moi, Dieu, c'était un Dieu qui allait m'empêcher de vivre, concrètement. Je ne pensais pas que la vie avec Dieu, c'était aussi passionnant. Alors, on est chrétien, mais on n'est pas sans vivre des difficultés, des drames, des tragédies. Par contre, on a une espérance et quelqu'un qui nous aide à les traverser, hein, vraiment. Moi, je ne savais pas que la vie avec Dieu, puis les projets qu'ils avaient pour moi, ils sont au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Moi, je n'imaginais pas que la vie avec Dieu, c'était ça. Hein. Vraiment, je vous le dis. Et j'avais plutôt cette vision d'un Dieu qui était dur, qui était froid, qui était distant. Mais vous savez, il y a quelque chose qui m'est... tu peux commencer à jouer, si tu veux. Il y a quelque chose qui m'est arrivé avant même que je sois chrétien, et je crois que Dieu l'a utilisé pour me donner un petit peu comme les prémices des choses que j'allais vivre. Il m'a montré son regard avant même que j'accepte son regard posé sur moi. Je vais vous l'expliquer. Moi, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, qui avait une vie basée sur l'amusement, la boîte de nuit, l'alcool, mais des choses... Ça paraît tellement banal dans ma bouche parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est une vie basée sur un amusement où il faut s'éclater, comme on dit, et s'éclater dans tous les sens du terme. Et moi, je vivais dans un petit village de 1000, 1200 habitants où il n'y avait pas grand-chose à faire à part s'alcooliser fort le soir. Et là, je suis sorti de l'adolescence à peu près, je crois. J'avais 16-17 ans. Et mes parents, j'avais une fête qui était organisée dans le village là, avec mes copains. Et mes parents, moi, ils m'avaient donné une horaire de retour à la maison qui était, à mon goût en tout cas, trop tôt. C'était genre 21h. 21h. Ils sont durs, les parents, des fois. Franchement, 21h. Alors que les autres, je ne sais pas pourquoi, c'était 23h, c'était 22h30. Et j'ai trouvé injuste. Et moi, je commence à peine la soirée, je commence à peine à m'échauffer et je dois déjà partir. Et sur le chemin du retour, quand je rentre chez moi, je prends la décision que quand je vais arriver à la maison, je vais ressortir par la fenêtre. J'arrive à la maison, mon père est en train de regarder la télé et regarder le foot, et on regardait toujours le foot ensemble. Il me propose de regarder la fin du match avec lui. Et là, je lui dis, non, je suis fatigué. Première erreur, hein, déjà. Je vais dans la chambre, les parents, ils sont pas bêtes non plus. Hein, je veux dire, là. Et là, la logique voudrait quoi? Que j'attende que ça se tasse un peu, que la fin du match termine, j'en sais rien, mais que je parte dans peut-être une demi-heure. Mais je suis tellement excité. J'imagine mes copains en train de faire des folies, puis moi je rate le meilleur de la soirée. Alors je patiente, je dois patienter 2 minutes 30 à peu près. Et je fais une forme avec des coussins dans mon lit, comme on voit à la télé. Tu sais, genre je fais une forme de moi, là, comme ça, en me disant si jamais il ouvre la porte sur un malentendu, ça peut passer. Et je sors par la fenêtre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Mon père, toc, Benjamin. Il ouvre, il soulève le drap. Benjamin, un peu mou, Benjamin. Sauf qu'il regarde par la fenêtre, il me voit partir. Et il décide de me suivre en vélo. Moi, j'arrive sur le lieu des festivités, mes copains ne savaient pas que j'allais revenir. Quand j'arrive sur le lieu des festivités, mais Ben, non, il y a Ben, il est revenu, Ben, mais c'est incroyable, Ben, t'es un malade. Je suis un demi-dieu pour eux, je suis un mec incroyable. Je suis là, ouais, Ben. Et là, franchement, je suis fier de mon coup, quoi. Je suis là, je monte sur la table, tout le monde me donne des bouteilles, je bois, ouais, Ben, un verre pour Ben, ouais, allez, et puis là, je bois, j'essaie de rattraper le plus vite possible. Ouais, Ben, t'es un ouf, allez, cul sec, Ben. Ben, il y a ton père, ouais. Un verre pour mon père, ouais. Moi, je crois que c'est un délire. Et là, il y en a un qui me dit, non, Ben, il y a vraiment ton père. Et là, je vous promets, les bouteilles, elles volent. Tout le monde court dans des sens improbables. Les gens, ils courent. Il y a des gens, ils se cachent derrière des trucs improbables. Et moi, je cours aussi. Je cours. Je cours et au bout d'un moment, je me dis, mais tu vas où, frérot? C'est quoi le projet de la soirée? Tu vas dormir où? Et là, je me dis, ben oui, et je cours et je m'arrête. Et je fais demi-tour. Et je rentre vers mon père. Oh là là, les amis, le chemin, il est long. Le couloir de la mort. En plus, il est long parce que je prends pas le chemin le plus droit non plus, tu vois. Donc c'est très très long, le chemin du retour. Et j'arrive auprès de mon père, je suis alcoolisé. Et là, s'il y a bien un moment où je dois prendre une sentence, et je la mérite, c'est maintenant. Mon père n'a jamais été violent physiquement envers moi, mais je m'attends à ce qu'il le soit verbalement, à ce qu'il me réprimande fort. Et franchement, je m'attends à tout et je le mérite. Je pense presque que je le mérite. Et je me rappellerai toujours le regard de mon père sur ce moment-là. Et je crois vraiment que c'est quelque chose de prophétique, dans le sens où Dieu m'a montré son regard, le regard qu'il a porté sur nous. Il me regarde avec tristesse, hein, mais avec amour. Et il me dit, viens, je te ramène à la maison. Je me rappellerai toujours de ce regard, parce qu'il a déchiré mon cœur. Et ça m'a montré la réalité de l'amour de Dieu, qui n'est pas celui qui nous tombe dessus pour nous rappeler tous nos péchés. Parce que mon père n'a pas besoin de me rappeler mes péchés à ce moment-là. Vous comprenez que je les connais bien, mes péchés, à ce moment-là. Mais il manifeste son amour. Et j'en avais besoin, son amour, pour rentrer à la maison. Et c'est une histoire qui rappelle celle que je vis quelques années plus tard, quand je suis revenu à Dieu. Et il ne m'a pas rappelé toutes les erreurs que j'avais faites depuis des années. J'en étais bien conscient. Mais il m'a dit, viens, mon fils, rentre à la maison. Et je veux croire qu'il y a des gens, vous allez revenir à la maison ce matin, auprès du Père, parce que Dieu vous attend toujours. C'est vous qui vous êtes éloigné. Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît? Et je voudrais qu'on puisse fermer les yeux quelques instants. Vous savez, fermer les yeux, ça permet de réfléchir, de méditer, comme on dit, et de repasser peut-être ce message sur ton cœur, avant même que je lance un appel à un retour à la maison. Je t'invite juste, alors que le piano joue doucement, à repasser les paroles de ce message sur ton cœur et de réfléchir. Et je crois vraiment que Dieu va te montrer. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Il y a quelque chose qui te concerne. Je ne sais pas si ça parle de toi ou de ton fils qui n'est pas encore à la maison. Je ne sais pas si ça parle de choses passées ou présentes, des choses qui ne sont pas entre les mains de Dieu, où Dieu te dit, viens les confier entre mes mains. Parce que sur ce domaine-là, ta vie est en danger. Ce secteur-là, ta vie est en danger. Et entre mes mains, c'est en sécurité. Je ne sais pas ce qu'a fait écho à ton cœur. Peut-être que c'est au tout début du message, sur le témoignage. Mais je crois qu'il y avait quelque chose pour toi ce matin. Prenons quelques instants et réfléchissons. Je crois que Dieu veut te parler ce matin. Qu'est-ce qui a résonné? Écoute ce que ton cœur t'a dit. Qu'est-ce qui a résonné? Et maintenant que tu comprends quelle partie a résonné, tu vas voir Dieu te dire, sur ce domaine-là, juste viens te blottir en moi. Peut-être que tu es dans l'inquiétude de voir tes enfants s'éloigner. Viens te blottir en moi. Peut-être que tu forces parfois. Tu veux reprendre le contrôle pour amener tes enfants à l'église, les amener à la foi. Viens te blottir en moi et laisse-moi le contrôle, relâche. Si c'est entre tes mains, ça va être imparfait. Si c'est entre mes mains, j'amènerai les choses à la perfection et à l'accomplissement. C'est peut-être la colère envers une maladie qui a pris place. Peut-être un éloignement par rapport à un péché qui est viscéralement attaché à toi. Ou même toi, tu n'y crois plus, que tu peux un jour te détacher de ça. Et tu sais quoi la bonne nouvelle? C'est que même si toi, tu n'y crois plus, Dieu y croit pour toi. Il te dit, oui, relève la main ce matin pour me donner encore ce domaine-là. Et tu vas aller de progrès en progrès et un jour tu en seras libéré. Dieu voit les progrès, il ne voit pas la perfection, les amis. Et il est fier de tes progrès. Viens te blottir encore en lui ce matin. Et je voudrais peut-être donner l'occasion à quelqu'un, avant même que pour d'autres sujets on puisse prier, je voudrais donner l'occasion à quelqu'un de venir se réfugier en Dieu pour la première fois. Toi, tu n'as pas donné encore ta vie à Dieu. Ta vie n'est pas en sécurité encore. Parce que tu ne lui as toujours pas donné. Mais ta vie peut commencer ce matin. Elle peut être cachée en lui ce matin. Tes péchés peuvent être ôtés ce matin. Ça demande une repentance. Ça demande que tu demandes pardon. Que que tu acceptes le sacrifice de Christ et que tu lèves la main maintenant en disant « Seigneur, je te donne ma vie. » Si c'est ce que tu souhaites et tu désires ce matin donner ta vie à Christ, lève ta main à ta place et j'aurai l'occasion de prier pour toi là où je suis. Ouais. Yes. Tu peux baisser la main. Maintenant, je voudrais prier pour les personnes qui veulent abandonner quelque chose entre les mains de Dieu, quelque chose de précieux, quelque chose qui leur est douloureux, mais tu sais que ce n'est pas en sécurité parce que ce n'est pas entre les mains de Dieu. Ou quelqu'un tout simplement dit ce matin, moi je veux juste venir me reblottir entre tes bras ce matin. Je veux venir me réfugier en toi. Je suis désolé du nombre de fois où je m'éloigne de toi par culpabilité. Je veux revenir près de toi parce que je sais que tu as les yeux braqués sur moi. Si c'est ta volonté, lève ta main à ta place, juste, et je ne saurais pas pourquoi tu lèves la main, il y a déjà de nombreuses personnes qui lèvent la main. Mais Dieu voit pourquoi cette main est tendue vers le ciel en cet instant. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est plus que physique, c'est spirituel. Ce matin, tu viens abandonner à Dieu, tu viens te réfugier en Dieu. Et Dieu t'accueille et tu reçois la paix ce matin, la sécurité et l'assurance que Dieu, sur ce domaine-là, va s'occuper de toi. Merci pour les abandons, pour ceux qui relâchent. Tu peux baisser la main instantanément. On prie ensemble, Église, pour tous les bien-aimés qui ont élevé la voix. Seigneur mon Dieu, je te prie. Et prie avec moi, s'il vous plaît. Intercédez pour vous en tant qu'Église. Seigneur mon Dieu, on te prie ensemble, comme une Église, comme un seul cœur, qui te demande, Seigneur mon Dieu, de nous aider à capter ce regard bienveillant sur nous. Que nous soyons une Église qui ne jamais ne t'abandonne par culpabilité ou te délaisse, mais qui vient habituellement à l'église pour venir se réfugier en toi. Notre place est auprès de toi, notre place est à l'église, même quand on a fait le mal, même quand on a péché, c'est toujours ici qu'on vient se réfugier en toi, qu'on vient délaisser nos fardeaux. Merci pour toutes les personnes qui sont venues se réfugier en toi ce matin. Merci pour la paix qu'il leur a accordée ce matin. Ils repartent avec un poids en moins, ils repartent avec une paix, cette assurance, Seigneur mon Dieu, que tu es à côté d'eux, que tu es avec eux, et que sur ce sujet-là, Seigneur mon Dieu, tu vas t'occuper d'eux. Bénis-les, Seigneur mon Dieu. Bénis cette église. Ma prière, elle se termine en priant pour l'unité de cette église, ces églises. Je prie, Seigneur mon Dieu, que sur ce qui est bâti aujourd'hui, l'amour, l'unité, ça soit comme un socle et ne soit pas un plafond. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ça soit que le début d'une unité plus grande, d'un amour plus grand, de quelque chose, Seigneur mon Dieu, qui va encore plus loin, d'un amour qui dépasse les frontières, qui dépasse les différences, comme ça a été, comme le message central depuis ce matin. Aide-nous à aimer plus, malgré les différences. Que ce qu'on vit aujourd'hui, ce soit que les prémices des choses de demain, d'un amour qui nous unit ensemble. Je te prie pour l'unité de ces églises, Père. Je te prie pour Nancy et sa région. Parce que c'est par l'unité que le témoignage va être le plus grand. Et l'amour va être le plus véhiculé, Père. C'est dans ton nom que j'ai prié ce matin, Père. Et tout le monde dit Amen avec moi. Amen. Pas pour ce que Dieu va faire, s'il vous plaît, les amis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Je laisse la place à la suite. Merci beaucoup.